Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Mais que s'entraîne y faut cette femme que va n'arriver à casa trojas. Et son petit pudeli que s'entroupie qu'à tout et comme ferait à son toyeuge. En catarie un oeil juste croirie à l'chicherie meneu. En oreille me straparie de l'entro magnarie contre sa la main à trente et pudeli à straparie de feu la hâte que il a de la hâte. Tutta la merda de feu a stropignar a un ciccerie il budello in funda a dei cartellini contonti a cicciarmi diti che sto fam che goi carassa di sto un pie vacateria de ventro magneria il cineso un altro cineso i ciapi il pisello il ventro un spala de ventro tutta la crata la magneria la parlu.
Ici Radio d'Ivoire pour l'interview, c'est sur les ondes FM en 107.5 ou sur le site internet www.rdwa.fr. aujourd'hui nous recevons Boris et Claire pour un spectacle qui va se dérouler demain soir à Die à Andarta, ex-Baradi. Un spectacle qui s'intitule « À la vie, à la mort ». Bonjour.
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 Alors, ce spectacle, d'ailleurs, Boris, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Boris, tu viens de quelle contrée, toi ?
Alors, à la base, je suis parisien. Et puis, depuis quelques temps, depuis un an, je suis auvergnat, en fait, où on crée un lieu en Auvergne à quelques-uns.
Qui s'appelle La Saillante.
C'est ça.
Alors La Saillante, c'est quoi ? C'est un univers dédié au théâtre ?
Pas uniquement, on a appelé ça un peu pompeusement peut-être, mais une fabrique artistique qui est un lieu de résidence pour aussi bien des compagnies théâtre que des groupes de musique, des peintres, des résidences d'auteurs, des sculpteurs, enfin voilà, tout ce qui peut un peu toucher autour de l'acte artistique. Et qui est un lieu de résidence, pas un lieu de spectacle, parce qu'on n'a vraiment pas voulu créer un espèce de petite oasis. Donc les compagnies viennent travailler et après on les invite à présenter leur travail dans la région, en Auvergne ou plus loin.
Boris, vous êtes là pour un spectacle, donc j'ai intitulé tout à l'heure « À la vie, à la mort ». Un spectacle, c'est quel spectacle ?
C'est un spectacle à partir de textes de Dario Fo, qui est un auteur italien contemporain. Donc il a écrit de nombreuses pièces. C'est un auteur qui toute sa vie a milité pour diverses causes, continue aujourd'hui aux alentours de 95 ans. Et donc moi j'ai tiré trois textes de ses œuvres, trois textes qu'il a recueilli en fait. C'est un texte qu'il a trouvé dans des archives siciliennes qui datent du XIIIe siècle. Il y a un autre texte pareil qu'il a retrouvé dans des archives et qui est un fait historique en fait qui s'est passé au XIVe siècle du côté de Bologne où le peuple a attaqué un château où était réfugié un représentant du pape et qui avait commis des razzias dans toute la région. Et un troisième texte où il a réécrit en fait le mythe de Dédale et Icare.
Ce spectacle, ce sont trois histoires courtes avec trois titres différents. Et c'est là où vous en veniez, c'est ça ?
C'est ça, c'est trois histoires courtes et entrecoupées de textes que j'ai écrits qui présentent les histoires et qui les... c'est des vieilles histoires, on pourrait dire, mais qui parlent complètement aujourd'hui. Il y a une contemporanéité complète sur la première histoire, sur un paysan qui perd ses terres par un gros propriétaire terrien, par exemple, c'est des histoires de lutte et voilà, qui nous montrent que ça a toujours existé. Alors c'est peut-être pas très optimiste, voir que plusieurs siècles après on en est toujours un peu au même endroit, mais voilà, ça, c'est pour ça aussi à la vie, à la mort, c'est aussi pour dire que voilà, il faut y aller quoi. Voilà.
Des textes universels.
Oui, c'est des textes universels qui se passent en Italie, mais en fait qui ont une portée complètement universelle et intemporelle.
Justement, je voulais venir sur ces histoires. Dario Fo était un écrivain ou un auteur qui s'inspirait beaucoup de l'époque médiévale, a priori.
Il a recueilli pas mal d'histoires en allant demander aux anciens, lui raconter les histoires qui ne s'écrivent pas et qui sont de tradition orale, et en retrouvant dans les archives des textes, oui, vieux de plusieurs siècles. Et il les a pour les faire entendre partout dans le monde, en fait. Et après, il a aussi écrit des pièces de théâtre, des textes, alors là, par rapport à une actualité très forte, que ce soit dans les années 70 en Italie, ou dans les années 80, où il allait jouer dans les usines en grève, dans les maisons du peuple.
Comment jouer parfois Dario Fo, puisque apparemment il utilisait aussi des onomatopées et aussi des grommelots?
Oui.
Alors, c'est des choses qu'on va retrouver dans ces histoires?
Non, parce qu'en fait, ces histoires, Dario Fo, par exemple, pour la première histoire, quand il la raconte, c'est en sicilien, voilà, où il raconte des histoires en bolognais, dans tous les dialectes qui peuvent encore exister en Italie, même s'ils ont tendance à de moins en moins être présents, mais il y a encore cette histoire-là très présente. Et donc lui, en fait, souvent, avant de raconter ses histoires, il les explique en italien moderne, il les résume, et après, il les donne à entendre dans différentes langues et dialectes italiens.
C'était un féru de l'Italie au niveau des langues
Oui, un féru d'histoire et avec ces langues, c'est toute une histoire aussi des peuples qui sont transmises à travers ces histoires et à travers ces différents langages, en fait.
Est-ce qu'il y a il y a des auteurs équivalents au niveau de leur écriture, à votre connaissance?
Je ne sais pas, par exemple, je sais que Pasolini a écrit en frioulan, la région, le Frioul d'où il était issu. Après, comme ça, je ne sais pas, je sais qu'il y a une forte tradition plus forte qu'en France, où les langues dites régionales ont tendance à se perdre, que ce soit l'occitan, le basque, le breton, enfin. Et en Italie, j'ai l'impression que c'est encore présent, même si Dario Fo et Pasolini en parlent en disant que c'est vraiment en train, là aussi, de tomber un peu en désuétude. Voilà, à part Pasolini qui a écrit beaucoup de choses en frioulan, je n'en connais pas vraiment d'autres, non.
Il a écrit énormément pour le théâtre, c'est ça, hein, je crois bien.
Dario Fo.
Pasolini.
Ah, également. Pasolini, il a écrit assez peu pour le théâtre, en fait. Il a écrit, je crois, 5 pièces pour le théâtre dans toute son œuvre, au milieu des films, des romans, des nouvelles, des articles, de journaux, des essais. Donc il a assez peu écrit pour le théâtre. Dario Fo, lui, a écrit principalement pour le théâtre. Voilà, c'est vraiment ce qu'il tient, c'est de faire vivre ce théâtre populaire et militant. Vraiment.
Est-ce que ce sont deux personnes qui se sont croisées?
Je crois qu'elles se sont croisées, je crois qu'elles se sont pas forcément très bien entendues. Je sais que Pasolini a écrit des textes un peu durs envers Dario Fo. Voilà, il n'y avait pas que contre lui, mais voilà.
Est-ce que j'ai cru lire dans la bio de Dario Fo qu'il était un peu engagé politiquement aussi?
Il est très engagé politiquement et il l'est encore, aux alentours à plus de 90 ans, il l'est encore. Depuis la Seconde Guerre mondiale, en passant par les luttes autonomes italiennes des années 70 et 80 jusqu'à aujourd'hui, et encore il y a très peu de temps, il a écrit un texte sur le nouveau Premier ministre italien qu'il a donné à entendre devant des milliers de personnes. Voilà, donc il l'a été, il continue à être très engagé politiquement, effectivement, oui.
Avec un regard ironique, malgré tout? Sur les choses.
Souvent avec un regard qui passe par... Il y a beaucoup de satire chez Dario Fo, il y a beaucoup de oui, ça passe souvent par les comédies, pour des pièces comme sur des sujets assez graves, comme Mort accidentelle d'un anarchiste, qui était pour dénoncer la défenestration par la police d'un militant anarchiste, Giuseppe Pinelli. Il le tourne en dérision. Alors c'est à la fois très frontal et en même temps très drôle, ou d'autres pièces comme Faut pas payer, qu'il a écrites pour soutenir toutes les autoréductions qui se multipliaient dans l'Italie des années 70. Et là aussi, c'est souvent très drôle, tout en abordant des sujets assez graves qu'on pourrait qualifier de polémiques.
J'ai du mal à saisir cette dissension qu'il y a eu entre ces deux auteurs?
C'est enfin peut-être Claire, tu veux,
non,
tu veux
non,
en dire quelque chose
tout,
non,
non
justement je pense que
il me semble que par rapport à ce que vous me décrivez de l'œuvre de Dario Fo, j'y trouve une certaine similitude avec Pasolini.
Et oui, il pourrait y avoir une évidence à ce qu'il soit bien entendu. Après Pasolini était une radicalité qui tendait à une espèce de pureté comme ça, révolutionnaire ou je ne sais quoi. Et je pense que le côté, moi c'est deux auteurs que j'aime beaucoup, mais je pense que le côté justement peut-être populaire, Dario Fo, il utilise beaucoup aussi les codes de la Commedia dell'arte par exemple, choses comme ça, alors que Pasolini, lui, il disait que le théâtre populaire était un théâtre très compliqué, voilà, et que le théâtre facile, ce qu'il qualifiait de théâtre facile, était pour lui le théâtre de la bourgeoisie. Donc c'est peut-être de là que viennent un peu leurs différends, mais j'en sais pas beaucoup plus en fait.
C'est déjà un bon départ. Mmh. Et Claire, vous, par rapport à... Est-ce que vous connaissiez Dario Fo auparavant?
Oui, ben, moi j'avais... Oui, j'avais entendu parler de Dario Fo autant en tant qu'auteur que dramatique. Bon, il a eu le prix Nobel, hein, donc on en a plus entendu parler en 97, mais j'avais déjà entendu parler de lui. Il avait fait un spectacle sur la faim. Mais où il jouait aussi, hein, en tant que comédien. Et on m'avait dit que c'était extraordinaire parce que justement, il travaillait beaucoup sur le corps, enfin, de quelqu'un qui a faim et qui finit par se manger lui-même. Mais avec tout un travail vraiment un peu de bim, de, voilà, de Commedia dell'arte et tout ça. Et puis j'avais été voir Faut pas payer, où ce sont les femmes italiennes à un moment donné où ils sont en crise vraiment, où les gens ont du mal à se nourrir, à vivre au quotidien, et les prix augmentent et les femmes décident de faire la grève de payer. Donc elles vont dans les supermarchés, elles remplissent leur cabas, leur panier, leur truc, et elles payent rien. Et donc, une fois rentrés, les hommes ne sont pas tellement au courant, tout ça. Donc, c'est vraiment c'est une comédie, mais en même temps, c'est vraiment sur la société de cette époque-là. Et voilà, et c'est très mordant, enfin, très corrosif, en fait. Ouais.
À croire que l'humour est le meilleur moyen d'écrire une société en crise?
Ça peut, oui, bien sûr. Enfin, il y a toutes sortes de... Il n'y a pas un moyen de parler des choses. Dans les textes de Dario Fo, il y a des textes très forts, avec une écriture à la fois simple, mais aussi poétique. Voilà. Et puis, il y a des moments complètement facétieux, complètement drôles. Tout est... Plein d'axes sont possibles pour écrire. Hein.
Dans la première histoire, qui s'appelle « La naissance du jongleur », à un moment, il identifie la personne qui vient donner la parole, un peu le miracle pour la naissance du premier conteur. À un moment, dit « Par le rire, on peut faire baisser culotte au patron, car si on rit des patrons, le patron de montagne qu'il était devient colline et puis plus rien qui bouge. » Voilà, enfin, donc c'est
imagé.
Voilà, c'est ça.
Il faut se promener un peu dans cette idée. Ce sont des paliers qu'il va falloir que je comprenne pour avancer.
C'est oui, il fonctionne beaucoup par image et en plus là, ces textes du Moyen Âge, voilà, sont effectivement très très imagés et remplis de symboles, voilà. Alors que lui, il les a réécrits ces histoires, tout en gardant cette veine populaire et un peu du Moyen Âge. Et ouais, la deuxième histoire, c'est un peu, ça peut faire penser un peu à Rabelais. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'obscène, moyenâgeuse, quoi.
Et vous avez travaillé avec beaucoup de metteurs en scène dans le théâtre, d'après ce que j'ai lu.
Oui.
Et est-ce qu'il y a une espèce de constance dans l'évolution de votre parcours du théâtre? Est-ce que vous avez pris un chemin dans une direction précise? Ou alors vous vous ouvrez à des textes un peu très différents même?
La plupart des personnes avec qui j'ai pu travailler, ça a été, on a souvent travaillé autour d'auteurs contemporains. Donc bon, là, Dario Fo est vivant, même si c'est des textes du Moyen-Âge, donc ça change un peu. Et en fait, cette aventure de l'association Sans Aveu, La Saillante, voilà, qui est initiée depuis un an avec quelques compagnons et voilà, c'est un peu, c'est pas l'aboutissement parce que ça commence, mais on tend à en venir là à un peu toutes les troupes dans lesquelles je travaillais. Enfin, c'était il y a beaucoup dans l'institution et il y avait quelque chose où de l'ordre où le théâtre est devenu quelque chose d'assez élitiste et où on met dans la tête des enfants et dans la tête de beaucoup de gens que c'est pas fait pour eux ou pour nous. Enfin, et donc il y a vraiment cette volonté d'avoir cette même exigence qu'on peut retrouver dans des troupes qui jouent dans des lieux très institutionnels, mais là d'aller jouer là où il n'y a pas de théâtre notamment. Et aussi de permettre à des amis qui font des projets qui ne rentrent pas dans telle ou telle case ou dans tel ou tel cadre, de pouvoir les faire aboutir pour ensuite les présenter.
C'est un peu ce qu'avait lancé Jacques Copeau dans les années, je ne sais plus quelles années, les années 60, les années...
Ah non, c'était...
Bien avant.
Non, ouais, dans les années 20, mais c'est pas du tout nouveau. Il y a Jean Basté, Jacques Copeau, Jean Lourdin.
Voilà, où il allait, en effet, sur les places de village. Il y avait tout un tas de gens qui se réclamaient de lui, il allait copio, et ils allaient faire du théâtre, donner du théâtre dans des lieux où il n'y en avait jamais, en fait.
Est-ce que votre rencontre... a eu lieu dans les couloirs de Radio France ?
Non.
Non ?
Non, c'est croisé autour d'un monsieur, d'un grand monsieur qui s'appelle Jean Lourdin, qui est basé en Bourgogne. Voilà, donc au cours d'un atelier.
D'un stage pour les comédiens, en fait, où on devait travailler sur les textes de Jean-Pierre Siméon et on travaillait donc avec ce metteur en scène, ce chef de troupe, là, Jean-Louis Bourdin. Et c'est là qu'on s'est rencontrés.
Et depuis, on a créé à nombreux, à une quinzaine, un collectif, le collectif Passage, qui de manière assez informelle, tous les étés, va jouer sur les places de village. Voilà, et c'est vrai que Jean-Louis Bourdin était un peu, sans le savoir, mais il a initié tout ça, quoi. Voilà.
Un spectacle qui s'adresse à tout public.
Oh oui, pas évidemment les petits-enfants, mais...
Moi j'ai tendance à dire qu'il s'adresse à partir de... J'avais mis 14 ans.
Oui,
et en fait, il y a des enfants beaucoup plus jeunes qui sont venus et qui ont apprécié. Après, je continue à dire, j'étais étonné qu'ils apprécient, et parce qu'il y a des images assez dures. En fait, il y a des choses drôles, mais il y a des images aussi très dures. Donc,
au sens figuré, les images.
Pas que, non, il y a
parce qu'il y a des images.
Au sens figuré, dans ce qui se raconte, des scènes, des passages de violents. Voilà, donc c'est. Non, il n'y a que le texte. Y a, dans le spectacle, il n'y a pas de décor, il n'y a vraiment que les. On est comme un passeur de texte, quoi, de ces vieilles histoires. Et à l'intérieur de ces histoires, il y a des. Il y a notamment deux passages où je me dis que pour les enfants d'en dessous de 13-14 ans, c'est un peu rude. Des parents qui ont amené leurs enfants plus petits ont dit non, c'est bien, il faut qu'ils se rendent compte que le monde est dur, qu'il y a des injustices. J'avais plutôt tendance à leur répondre qu'ils avaient le temps de s'en rendre compte et qu'ils gardent un peu d'émerveillement. Voilà, donc c'est pour tout le monde, je continue à dire, à partir de 13-14 ans.
Et est-ce qu'il y avait une certaine liberté d'écriture dans les textes médiévaux, une expression, une liberté de décrire tout ce que l'on voulait, sans tabou, sans autocensure, due à des exigences pontificales, par exemple?
Je pense complètement. C'est des textes en fait de jongleurs, les jongleurs de mots au Moyen-Âge.
Il y avait les farces, hein, au Moyen-Âge. Les farces, elles étaient assez... assez libre de parole, je pense.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait d'un côté, souvent, les gens se retrouvaient, par exemple, à Pâques, où il y avait d'un côté les mystères qui étaient tirés des écrits religieux, et de l'autre côté, les farces du Moyen-Âge, qui, alors là, étaient... c'est Rabelais, c'est tout cet univers-là, obscène, moqueur, plein de satire. Et il y avait une liberté de parole, et c'est des textes qui sont transmis de manière orale, et donc ils étaient des textes que tout le monde peut se réapproprier, que tout le monde peut réécrire, et qui donc ont perduré à travers les années, les siècles, pour arriver jusqu'à nous. Donc ils ont dû être, à chaque fois ils ont été modifiés, réécrits, et Dario Fo fait partie de cette tradition des jongleurs de mots.
Et d'ailleurs, en parlant de jonglage de mots, Claire, est-ce que vous y sentez une musicalité ?
Dans le texte ?
Oui, dans la parole.
Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, parce que c'est un très beau texte. Hein. C'est écrit à la fois dans une langue simple, c'est-à-dire accessible, voilà, sans mots compliqués, mais à la fois c'est une belle langue. C'est vraiment une belle langue, donc... Oui, il y a toujours un rythme, une musicalité des mots. Et oui, oui, c'est une belle langue.
Très bien. Eh bien, écoutez...
Il faudra qu'on dise où ça se passe quand même.
Oui, bien sûr, on va y venir. Hein. J'avais parlé au début à Ondarta. Donc, à Ondarta, à partir de quelle heure je dis ?
À 20h.
À 20h. C'est une entrée qui se fait comment d'ailleurs ? C'est au chapeau ?
C'est au chapeau, voilà. Ça dure une heure. Et voilà, l'entrée est libre, et la sortie aussi d'ailleurs, il y a un chapeau qui...
Est-ce qu'il y a une illustration musicale dans ce spectacle ?
Non, c'est vraiment... Moi j'ai toujours travaillé en collectif et un plaisir, et puis là des circonstances ont fait que ces histoires sont plus justes si elles sont dites par une seule personne. Et donc c'est un peu cette tradition, alors peut-être qu'il s'accompagnait d'instruments, justement les jongleurs de mots, mais là il y a vraiment cette volonté d'être un passeur de texte, un transparent du texte, comme dirait Jean Lourdin, voilà, et que ça suffise pour nourrir les imaginaires de tout le monde.
C'est quoi transparent du texte ?
Un transparent du verbe, c'est, moi j'entends ça par le fait de c'est de pas mettre en avant le comédien, enfin c'est vraiment d'être voilà, d'être des passeurs, et ce qui est important c'est ces histoires,
c'est le texte, voilà.
C'est d'être au service du texte,
ouais,
c'est
ça, tout à fait.
Oui, voilà, oui, ça c'est vrai que des fois c'est parfois dur de voir un comédien d'avoir un texte.
Il y a des gens qui font leur numéro en tant que comédien, voilà, et puis alors qu'il y a des gens qui sont vraiment des passeurs de texte. On entend, on est dans le texte.
Et que tous les spectateurs, du coup, puissent se faire leurs images sans que le comédien leur impose une image. Voilà.
Eh bien, Boris et Claire, merci.
Merci à vous.
Merci à vous.
Voilà. Et donc je rappelle ce spectacle À la vie, à la mort, d'après les textes de Dario Fo, avec Boris Mocage. Et ça aura lieu donc à Ondarta, jeudi soir. Nous serons le...
Demain, ouais. Le 22.
Le 22, donc à 20h.
À 20h, Alex Baradi. Ouais.
Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée.
De même.
Ben, merci beaucoup.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Un poderoso marin, la cannella, tutto il pesce, un tomato, un uovo, un salame, cosa ti ho detto? Un tocco di carne, uno sciaplon, dopo te magno, buon sapere, il fuoco, un altro fuoco, cos'è una padella, cos'è tutto il grasso, cos'è tutta una scigola, che... O il piagna, cos'è, potete fare, se c'è un po' di sale, se l'erba smedega, se il rosmarino, se un po' di cannella, la gallina, toc!
Interview.